Nous allons avancer dans l'analyse assez rapidement et nous allons revoir tout ce sujet à travers deux lignes de Gemara qu'on va apprendre tous ensemble. Je vous rappelle que les grands principes des deux questions que j'ai posées à propos de Hanouka. Vous rappelez, la première question c'est comment se fait-il qu'il n'y ait pas de traces écrites dans la... C'est fini. Comment se fait-il qu'il n'y a pas de traces écrites dans la littérature qui nous a été laissée à travers l'histoire concernant le sujet de Hanouka? Vous vous rappelez, c'était la première question. Bon, on avait un peu commencé à l'analyser. Deuxième question, corollaire, qu'est-ce qu'on commémore exactement, réellement, dans la fête? Bon, ça va, on fera bien. Est-ce que c'est l'événement massif de la reprise de l'indépendance au temps des Asmonéens, des Hachmonaïm, au temps des Maccabées, ou si vous voulez, l'événement de la révolte nationale et religieuse à la fois, puisque la motivation de cette révolte nationale a été religieuse. Tant que l'indépendance avait été perdue, c'était l'occupation par l'Empire grec. Hein, l'indépendance avait été perdue, mais tant que l'identité juive pouvait être préservée, judéenne, c'est déjà l'identité juive, puisque nous sommes au retour du deuxième exil de Babel. Okay, le mot de Yehudi a déjà le sens qu'il va avoir dans toute la période de la diaspora juive. Originellement, ça veut dire membre de la tribu de Juda, très rapidement membre du royaume de Juda, et puis ça va devenir, le même mot de Yehudi deviendra Yehudi juif. Bon. C'est-à-dire la période d'identité qui suit la période hébraïque à proprement parler, dans les définitions que nous avons vues jusqu'à présent, que on reprendra d'autre part. Eh bien, tant que l'identité juive est préservée, alors on a supporté la perte de l'indépendance politique. Mais à partir du moment où l'identité juive elle-même a été atteinte, il y a eu la révolte nationale. Bon, nous n'avons pas le temps aujourd'hui, mais notez bien cela, parce que nous reprendrons cette analyse dans l'origine du sionisme contemporain. Et ce que je vous dis là a l'air assez paradoxal, a priori, dans les apparences, en ce sens que le mouvement sioniste contemporain n'est pas sorti d'une famille de prêtres, n'est pas sorti d'un milieu, disons, religieux. Apparemment, en réalité, nous verrons que oui, en réalité, mais officiellement, historiquement, vous êtes déjà arrivé avec Abraham Golek à la naissance du mouvement sioniste, pas encore? Ah, bon, enfin, vous recoderez. Apparemment, lorsqu'on parle du premier congrès de Bâle ou de l'apparition du mouvement sioniste, ça sort de milieux apparemment assimilés. Il y a aussi des datim avec eux, comme on dit aujourd'hui. Si on compare les deux mouvements, de la révolte nationale des Maccabées, de la restauration de l'entité politique Israël nationale, avec le mouvement sioniste contemporain, on serait tenté de dire qu'il y a une grande différence. Dans le temps des Maccabées, c'est au nom de la Torah, alors que dans le temps des sionistes, apparemment pas. J'ajoute apparemment, mais on étudiera ça d'autre part. Enfin, il est bien évident que c'est très fondamentalement analogue, dans le sens que le diagnostic des fondateurs du mouvement sioniste était que l'identité juive était en question. Ça fait 2000 ans qu'on n'avait pas d'identité politique. Le peuple juif dispersé n'avait pas d'identité politique. Mais c'est quand il y a eu un diagnostic très profond, plus profond que les apparences, que l'identité juive était en train de se perdre, qu'il y a eu le mouvement de réaction nationale. Vous voyez, bien que formellement, apparemment, la motivation idéologique ne semble pas du tout être la même, la révolte des Maccabées, c'est au nom de la Torah. Okay, la révolte du sionisme politique, c'est pas au nom de la Torah, c'est au nom de l'indépendance politique. Okay. Mais en réalité, le fond du problème est le même. L'identité juive était en question. Ça, c'est moi-même qui, dans les différents cours que nous aurons, vous expliquerai cela. Quel que soit ce que les idéologues sionistes eux-mêmes disent, en réalité, je vous donnerai l'analyse du Rav Kook, en réalité, ce qui était visé dans leur résurrection nationale, si j'ose dire, c'était le salut de l'identité juive. Vous mettrez ça de côté, c'est une remarque importante pour notre problème de Hanouka lui-même. Mais ça éclaire le temps contemporain. Et simplement, une dernière remarque là-dessus. Il y a un cliché et que vous aurez d'ailleurs dans toutes vos études, tant avec Madame Néer qu'avec Abraham, qu'avec moi ou d'autres, le temps de recorriger. C'est qu'on a souvent présenté, et c'est à tort, le mouvement sioniste comme une dissolution à l'antisémitisme. Ce n'était pas du tout son objet. Le mouvement sioniste n'avait pas pour objet de donner une solution au problème juif. Problème juif, ça veut dire l'antisémitisme. La question juive, comme on a dit récemment. Pas du tout. Par ricochet, ça sert aussi à ça. Mais ce n'est pas l'objectif du mouvement sioniste. L'objectif du mouvement sioniste, c'est la résurrection nationale. Un point. Vous comprenez? Bon. Et, alors, je referme cette parenthèse. Et puis, nous avons donc ces deux questions. Premièrement, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de livre traitant de Hanouka? Dans le canon biblique lui-même, on a déjà appris, c'était déjà après le temps du canon biblique, pas question qu'il y ait un livre apocryphe, les Maccabées, dans la Bible juive. C'est clair. Je vous ai un peu parlé de cela, que c'était les apocryphes et la différence entre le canon biblique de la Bible des chrétiens, en particulier les catholiques et les orthodoxes, qui mettent 400 ans de livres de piété qu'ils appellent les apocryphes, en hébreu Sfarim Achitsonim. Les protestants ont rejeté cela, mais enfin, quoi qu'il en soit, ça ne fait pas partie du canon biblique. La Bible s'arrête au temps de l'arrêt de la prophétie. Ce qui a après, ça ne fait plus partie de la Bible. C'est clair? Bon. Mais la question se pose de nouveau, pourquoi pas dans la littérature talmudique? Vous y êtes? Bon. Cette première analyse nous avait mené à... L'analyse de ce problème, du moins, nous avait mené à une première réponse. C'est parce que dans l'essence même de l'événement de Hanouka, ce qui était en jeu dans l'affrontement entre la culture grecque et la culture juive, c'est précisément la dimension de la tradition orale de la Torah que voulaient atteindre les Grecs. Là, tout ce qu'avait décrit la Bible, ils ont voulu se l'approprier. Et ils ont fini par risquer de réussir. Au point que dans la culture occidentale, la Bible est connue d'abord comme étant le livre des chrétiens et aussi les juifs. Je vous ai parlé un peu de ça. Je vous donne l'exemple de Yankelevitch, par exemple, qui m'avait beaucoup impressionné quand j'étais son étudiant. Il nous citait les évangiles en grec à bout portant. Vraiment à bout portant. N'importe, par cœur. En grec. Et lorsqu'il citait les psaumes, il les citait dans la référence chrétienne. C'est-à-dire avec le sens latin ou grec. Ce que les Grecs voulaient faire, c'était introduire dans la bibliothèque de leur humanisme le livre de sagesse des Juifs. Et en se l'appropriant. Vous verrez beaucoup de références à ce sujet que le Midrash donne. Leur objectif, c'était de couper l'identité d'Israël de sa relation à la Torah. Et de faire de la Torah autre chose. Un livre de sagesse qui rentre dans la bibliothèque de l'humanisme. Vous avez compris quel est cette question. Et donc, là je vous cite l'enseignement du Maharal, mais tel qu'il a été formulé de notre temps par un grand maître en Maharal, si j'ose dire, qui s'appelle le Rav Utner, dont je vous parlerai souvent. Et le Rav Utner a mis en forme cet enseignement du Maharal, c'est que la raison profonde pour laquelle on a interdit de mettre par écrit le récit de Hanouka, c'est parce que dans l'événement lui-même, l'objet du conflit était d'arrêter la tradition orale. Si on avait mis par écrit le récit de Hanouka, on aurait donné raison aux Grecs. On aurait, comment dire, témoigné de la victoire des Grecs. J'ouvre une petite parenthèse qui n'est pas une parenthèse. Vous avez entendu ce véhicule dans les paroles juives des formules comme par exemple « Nous sommes le peuple du livre ». Vous avez entendu cela ?« Amasefer ». Bon. Cette formule est complètement fausse. Tellement, on est tellement habitué à des clichés de ce genre qu'on se laisse avoir par les caricatures que les goyim ont fait de nous-mêmes. Alors on est fiers de ce que les goyim nous traitent du peuple du livre. Cette formule « Amasefer » vient de « Ahadaham ». Vous entendrez parler de « Ahadaham » dans vos cours d'histoire, qui a été un des très grands penseurs de la résurrection de la culture hébraïque au temps contemporain du sionisme. Il n'était pas sioniste exactement comme les autres. Ce n'est pas un sioniste classique, Ahadaham. Et alors, il a un certain nombre de formules de ce genre. Un jour, le Rav Kook a consacré tout un séminaire avec nous, avec ses élèves, pour nous parler de cela. Et Je vais prendre cet exemple. Il y a d'autres formules, mais je ne veux pas trop alourdir le cours. En réalité, on est soumis à un piège d'orgueil. Okay? On croit qu'on nous félicite en nous disant que nous sommes le peuple du livre. Sachez que nous ne sommes pas un peuple de bibliothécaires. Sachez que nous ne sommes pas un peuple de libraires. C'est le mot que je cherchais. Okay? En réalité, nous sommes le peuple de la parole qui a été mise par écrit dans le livre. Le livre par excellence, comme on dit. Okay? Et la Torah est d'abord, d'essence, une parole mise par écrit. Alors, corrigez cette erreur. Okay? Nous sommes le peuple de celui qui a dit la parole qu'il y a dans le livre. La Torah, c'est d'abord la Torah Shebaalpé. Et quand elle est mise par écrit, elle devient la Torah Shebirtav. Dieu n'a pas créé un monde où il y aurait des bibliothécaires qui lisent des livres. C'est parce qu'on a perdu la mémoire qu'on est obligé de mettre par écrit. Vous savez cela ? Rien que si cette année, entre autres choses, j'espère beaucoup de choses, vous apprenez cela, que la tradition juive, c'est d'abord la tradition de la parole orale, et que c'est par incapacité d'envergure spirituelle qu'on a des livres. C'est-à-dire tout le contraire de ce à quoi on peut croire. Hein ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Et il y aurait énormément de références que je pourrais vous citer, mais je ne vais pas élargir la... L'idée, retenez l'idée, hein, c'est que la Torah écrite, c'est la Torah mise par écrit. Et il y a des raisons historiques pour cela. Mais ce sujet, nous l'étudierons pour lui-même. Dès qu'on commencera à étudier un peu de Gemara, vous verrez. En tout cas, pour la Kitta Guimel, vous avez un petit peu déjà des petits échantillons que si on n'a pas reçu l'enseignement oral, on ne peut pas lire ce qu'il y a dans le livre. Et que ce n'est pas le contraire. Vous comprenez ce que je veux dire ? Bien. Alors, si on avait mis par écrit, on va prendre ça comme postulat de compréhension, si on avait mis par écrit l'histoire de Hanouka, ça voudrait dire que les Grecs ont gagné. Est-ce que c'est clair ? Alors, vous vous rappelez de la formule, Nes Hanouka, le miracle de Hanouka, lo nitan likatem, n'a pas été donné à être mis par écrit. Alors que ce n'est pas le cas pour le miracle de Purim. Et nous avons un livre dans le Tanakh, qui est la Megillat Esther, et tout un traité, très important d'ailleurs, du Talmud, qui s'appelle Masechet Megillah. Le miracle de Purim est le dernier des miracles qui a été donné à être mis par écrit. Le miracle de Hanouka n'a pas été donné à être mis par écrit. Première raison, puis allez d'abord à l'essentiel, si vous voulez, dans la signification, parce que la victoire d'Israël contre les Grecs a été la perpétuation de la tradition orale. Okay. Bon. Et vous comprenez, les goïms peuvent se réclamer du livre écrit, ils l'ont annexé. Mais quand ils citent la tradition orale, ils sont obligés de dire le Talmud dit. Ça veut dire les Juifs. Jusqu'au jour où ils s'annexeront le Talmud lui aussi. Rien que vous verrez bien. Vous en aurez des exemples historiques contemporains. Il y a beaucoup de. Il y a des équipes entières de théologiens chrétiens qui ont pour mission de s'annexer le Talmud et d'en faire une parole chrétienne. Bon, je referme la parenthèse. Deuxième raison, c'est que cette histoire que raconte Hanouka de ce conflit entre la culture grecque et la culture judéenne n'est pas finie. Nous la vivons encore. C'est-à-dire, elle ne peut même pas nous être donnée comme un modèle d'une époque antérieure de l'histoire d'Israël pour servir dans une époque subséquente, comme on dit, suivante. Okay? Comme par exemple, Purim. Nous vivons encore l'histoire de Purim, nous vivons encore l'histoire de la sortie d'Égypte. Mais elle est accomplie pour elle-même et elle est le modèle de ce que nous vivons dans une époque juive par rapport au modèle hébreu. Pour Hanouka, c'est autre chose, radicalement autre. Nous sommes encore dans ce conflit-là. Et je vous parlerai plus en détail, après, quand on aura plus de temps, je ne sais pas quand, mais enfin on aura, hein, que ce conflit, nous vivons en particulier dans la société israélienne, dans le conflit de mentalité entre les universités et les yeshivot. C'est ce conflit-là qui continue. Si vous voulez, les universités, même l'université religieuse de Bar-Ilan, je schématise beaucoup, mais enfin, nuancez pour vous-même, c'est des places fortes des Grecs chez les Juifs. Et ce conflit entre les universités, le monde des universités, le monde des yeshivot, je l'entends par rapport à la Torah. bien entendu. Pas question de faire de la physique dans la yeshiva, la physique ça se fait à l'université. Okay? Et grâce à Dieu, nous avons des universités de physique ou de chimie ou tout ce que vous voudrez qui tiennent une très bonne place légitime dans le monde entier. Okay? C'est connu. Mais lorsque les universités s'occupent de la Torah, okay? Là, c'est les Grecs, le cheval de Troie. Non, l'étude de la Torah avec la méthode universitaire. Et de ça, je vous parlerai abondamment. C'est le cheval de Troie. Okay. C'est pas clair ce que je dis là? Ah bon. Troie comme Abraham, Israël et Jacob. Si c'est qu'il y a une Israël, il faut aller. Bon. Non, je veux dire, ce problème... Ça y est, j'ai dit de la chômage. Je veux dire, ce problème n'est pas fini. Nous le vivons encore et je vous en parlerai très. Et que disais-je? Un exemple, par exemple, les Maccabiades, vous vous rappelez? Jusqu'où les Grecs nous ont eus, hein? Comment on commémore la victoire des Maccabies avec des Olympiades, qu'on appelle Maccabiades. Le bon Dieu là-haut, il rigole chaque fois qu'il se passe des choses comme ça. Il y a un verset. Vachem sera clamant. Et imaginez à quel point c'est mégouhar, ridicule. Comment les Juifs commémorent la victoire sur les Grecs en leur donnant raison, les Maccabiens. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire du sport. Quand des Juifs font du sport en Eretz Israël, les anges rient là-haut. Ils disent le Kdusha. C'est dans le Rakout. C'est autre chose. Le sport hébreu, c'est très important. Mais commémorer la victoire des Maccabées avec les mœurs grecques des Olympiades, ça, c'est autre chose. Vous voyez la différence? C'est clair.
Quel est le sport? C'est quoi le sport?
Faire de la gymnastique en Eretz Israël, c'est très important. Et retrouver la santé physique qui a manqué aux Juifs pendant 2000 ans. Par exemple. Et je te donne rendez-vous à mon âge. Il y a eu, c'est une bonne nouvelle. Tu vas vivre au moins tout ça, plus, jusqu'à 120 ans. Donc, alors, on vient au commun. Et par exemple, le Rav Kook a des pages, le père, dont le grand, des pages extraordinaires sur ce qui se passe dans le ciel quand les petits Israéliens jouent au football à Jérusalem. Okay. Il y a un problème, Shabbat ou pas Shabbat, c'est un autre problème. Bon, et tout ça vous apprendrez. Je reviens au sujet. Il y a eu un conflit culturel très grave et qui avait pour objet de couper les Natek, de déconnecter l'identité d'Israël de la Torah. Et avec toutes les stratégies possibles et imaginables. Et la victoire des Grecs est allée jusque-là que les principaux alliés de cette lutte des Grecs contre les Israël sont parfois les Juifs eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont eux qui se font le véhicule de cela. Bon. C'est ce qu'on appelait à cette époque-là les hellénisants. Les mitiavnim, les hellénisants. Et puis il y a toute une histoire des hellénisants à travers les siècles, ils changent de nom d'époque en époque, mais c'est la même tendance, c'est-à-dire introduire la mentalité grecque dans le fief de la mentalité hébraïque. Bon, voilà, à travers cette perspective, vous avez une première réponse, qui est que l'objectif des Grecs, c'était de nous couper de la mémoire de la Torah Shebealpé et de faire de notre Torah des livres. Et des livres, ça peut se traduire et s'annexer. Oui, à quel point la Bible sert de livre religieux des chrétiens. Et si vous savez à quel point ça n'a rien à voir le christianisme et le judaïsme, vous commencez déjà un peu à vous en douter. Bon. D'autre part, deuxième réponse, c'est que ce problème, nous le vivons encore, c'est pas achevé, c'est pas donné à être mis par écrit. Je vais donner un exemple, les Maccabiades, mais il y a plus que ça. Il y a le conflit qui n'a pas encore commencé, parce qu'on a d'autres conflits plus urgents. Okay. Et qu'on appelle le Kulturkampf, enfin la menace du Kulturkampf dans la société israélienne entre ces deux mentalités, les yeshivot et les universités, tout ce qu'il y a derrière. Okay. Il n'y a que des points très, très, très circonscrits de rencontres entre ces deux mondes. Mais ce sont deux mondes qui sont dos à dos, qui ne se sont pas encore rencontrés. Le jour où ça se rencontrera, si ce n'est pas dans la paix et dans la conciliation, ça risque de faire éclater la société israélienne elle-même. Ce conflit n'a réellement pas commencé. Et on se prépare dans les deux camps, malheureusement. Dès qu'il y a la paix aux frontières, la guerre civile risque de commencer. Bon, j'ai beaucoup schématisé, mais vous voyez où ça va. Okay. Ma ah, c'est pour ça qu'il vaut mieux qu'il n'y ait pas la paix aux frontières, il va me dire. D'une certaine manière, oui. C'est-à-dire, c'est un problème dont nous aurons à parler très très longuement. Il y a un conflit de légitimité. Il y a un domaine où la méthode universitaire est légitime. C'est les sciences de la nature. Et on ne peut pas étudier les sciences de la nature avec la méthode de la yeshiva. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appellerait la scolastique. Okay. Mais il y a un domaine où c'est la scolastique qui est légitime, c'est les sciences de la pensée. Comprendre ce que le prophète a dit, okay, il faut étudier avec la méthode de la scolastique. Mais comprendre la loi de la physique, ce n'est pas en faisant des commentaires sur un traité de physique du Moyen-Âge. Vous voyez la différence ? On fait la physique dans un laboratoire, pas en commentant un traité de physique, même d'Aristote. Ça, c'est la scolastique. Sa place est illégitime dans les sciences de la nature. Mais la méthode expérimentale est illégitime dans l'étude de la parole qu'il y a dans le livre. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que c'est... Ben, très bien. Et le domaine du conflit, c'est les sciences humaines. Voilà. Vous remarquerez que ce n'est pas par hasard que les sciences humaines sollicitent les juifs de manière statistique énorme. La proportion de juifs qui, comment dire, spontanément, s'occupent de sciences humaines est dans le monde énorme. Okay. C'est le problème des Hébreux. Et puis, malheureusement, sauf de très très rares exceptions, je vous en parlerai d'une, quelqu'un que, pour qui j'ai beaucoup de respect, plus que du respect, de la reconnaissance, qui maintenant est un peu hors de course parce qu'il est tellement âgé qu'il commence à radoter, le pauvre, c'est le professeur Baruch. Okay. C'est un des premiers qui, dans les sciences de la psychologie et de la psychiatrie, a réintroduit mais violemment la méthode hébraïque dans les sciences humaines. Il s'est fait tous les ennemis possibles et imaginables, même ses élèves ont été d'une ingratitude énorme, juifs ou non-juifs d'ailleurs, mais c'est un cas particulier qui restera dans l'histoire de la pensée, comment le professeur Baruch a secoué tout ça. Il a eu des résultats énormes, mais on l'a persécuté parce que c'était l'hébreu chez les Grecs. Vous voyez à peu près le problème. Il mérite qu'on lui dise, chaque fois qu'on pense à lui, Baruch Hata. Revenons au problème. Et alors, c'est précisément dans le domaine des sciences humaines que la projection de la méthode expérimentale est illégitime. Vous voyez le problème. Donc c'est une question de légitimité. Alors, il vaudrait beaucoup mieux que les universités ne s'occupent jamais, avec la méthode universitaire, de l'étude de la Torah. C'est pire que si c'était des goyim qui le faisaient. Parce qu'en plus, c'est des juifs qui, des fois, sont même pratiquants avec une kippa sur la tête et ça trompe tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, nous reprenons ce problème, c'est un problème important dans votre découverte des problèmes de la société israélienne. Mais ce conflit-là, si entre-temps, on n'a pas trouvé le lieu de conciliation de la légitimité de chacun, risque d'être très grave pour la société juive contemporaine. Mais c'est le problème de Hanouka. C'est le même problème. Vous voyez, c'est pas fini, cette histoire-là. Est-ce que c'est clair ? Bon. Et alors, la deuxième question étant, qu'est-ce qu'on commémore vraiment ? Et puis on sait, d'après la Halakha, on commémore les lumières de la réinauguration du Temple, le miracle de la petite fiole. Et pourquoi ? Pourquoi on a laissé de côté l'aspect national qui était cependant massif à côté de une péripétie en particulier qu'on ne comprend pas très bien. Qu'est-ce qui s'est passé qu'une petite fiole a brûlé 8 jours au lieu de brûler 1 jour, okay ? Avec une très belle discussion chez les commentateurs. Donc on devrait fêter 7 jours de la fête et le premier pas, puisque le premier jour, eh bien, il y avait la quantité de lumière qu'il fallait. Alors je vous donnerai la réponse d'ailleurs de la Gemara à ce sujet. C'est un sujet extrêmement passionnant. Bon. Revenons donc à notre problème. Je voudrais avant d'aborder l'étude à travers ces deux lignes de Gemara, de ce thème-là, donner une autre indication. D'autre part, ce qu'il faut savoir, c'est que la restauration de la Judée dans son entité politique et indépendante par les Asmonéens a finalement abouti à un échec. Et cet échec a été sanctionné par la conquête de la Judée, cette fois par Rome, et qui a inauguré les 2000 ans de la diaspora contemporaine. Et vous apprendrez en histoire que c'est les Asmonéens eux-mêmes, enfin de la 3e, 4e génération, qui ont appelé les Romains à Jérusalem. Vous savez. Et à cette époque, il y a eu donc le conflit de ces deux grandes tendances au sein de la société judéenne de ce temps, du Beit Sheni, les pharisiens et les sadducéens. Et c'est finalement les sadducéens qui rapidement ont pris le pouvoir avec la direction de la dynastie des Asmonéens. Enfin, ce que la dynastie des Asmonéens était devenue. Or, le Talmud, c'est le Talmud des pharisiens. Je vous ai déjà expliqué cela souvent. À telle époque, il y a eu les sadducéens. Ils disparaissent avec leur époque. Mais la tendance à cela ressurgit chaque fois, même si elle prend un autre nom. Aujourd'hui, grosso modo, on pourrait dire que la tendance au sadducéisme se cherche entre deux extrêmes qui sont ou les réformés ou les orthodoxes. Certains orthodoxes, certains réformés. Ça a l'air paradoxal, mais nous verrons pourquoi. Eh bien, le Talmud n'aime pas ce qui est arrivé, ce qui est advenu de l'aventure des Maccabées. Alors que lorsque les Maccabées se sont déclenché la révolte contre les Grecs, ont réinstallé l'indépendance avec toutes les péripéties que vous connaissez, eh bien, le Bedin de l'époque, le Bedin de Matatiaou à Hashmonaï, à Cohen, c'est miracle. Hanouka est arrivé, et puis on institue Hanouka et 8 jours, le Hallel. Et puis, à la longue, ce qui est arrivé de cette fondation, donc, de la réindépendance du royaume de Judée, et a abouti à un échec total. Sur deux points en particulier, les Asmonéens ont violé deux grands principes de la Torah, qui étaient, premièrement, l'interdiction de la confusion des pouvoirs entre le roi et le prêtre. Et là, vous avez tout le problème de ce qu'on appelle une théocratie, dont je parlerai assez rapidement aujourd'hui. C'est une grave erreur de croire que le système politique prévu par la Torah soit une théocratie. La théocratie, c'est le pouvoir des prêtres. Or, la Torah refuse absolument la confusion des pouvoirs. C'est-à-dire, le roi n'a pas le droit d'être le prêtre. Le prêtre n'a pas le droit d'être le roi. Retenez bien cela. Il y a séparation des pouvoirs absolue. On est habitué, or ça, les Asmonéens ont violé. Je vais vous expliquer comment. Pourquoi le Talmud les rejette. En réalité, dans la société biblique, selon la Torah traditionnelle, il y a quatre pouvoirs différents. Ici, nous ne parlons que de deux auxquels on est habitué en général. Le pouvoir politique, le roi. Aujourd'hui, c'est un président de la République, peu importe. Président de l'État, peu importe. Un président du Conseil, c'est le roi. Okay? Le pouvoir politique. Et le pouvoir sacerdotal, les prêtres. En réalité, il y a quatre institutions. Notez-le déjà. Il y a le roi, le prêtre, le juge et le prophète. Bien, mais je referme la parenthèse tout de suite, nous sommes habitués à ces deux en particulier. Mais dans tous les cas, interdiction de confusion des pouvoirs entre ces deux en particulier, le roi et le prêtre. Le roi n'a pas le droit d'être prêtre, le prêtre n'a pas le droit d'être roi. Okay? Ce sont deux formes que l'histoire a connues chez les Goïm de ce qu'on appellerait la théocratie. Or, le système de la Torah n'est pas du tout une théocratie. Une petite explication pour vous avancer dans l'analyse. Le prêtre a le souci du peuple pour le mener au monde à venir. Le roi a le souci du peuple pour vivre dans ce monde-ci. Ce sont deux tâches incompatibles. Il ne faut pas mélanger les critères. Vous voyez ? Sauf cas d'urgence, il n'y a plus de roi, et c'est un prêtre qui, se révoltant contre le pouvoir politique étranger, réinstalle le pouvoir politique. Mais ça devait être provisoire. Les Asmonéens avaient le droit, lorsqu'ils l'ont fait, de prendre le pouvoir politique. Hein? Ils étaient, eux, des prêtres. Okay? Ils étaient des Kohanim. Et c'est eux qui ont déclenché la révolte politique. Bon, par conséquent, au temps où ils l'ont fait, non, laissez-moi expliquer, si vous avez des questions après. Au temps où ils l'ont fait, c'est habilité par la Torah, mais ça ne peut être que provisoire. Immédiatement, ils devaient rendre le pouvoir politique à la dynastie royale. Bon, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ont fondé une dynastie de prêtres. Oui. Alors ça a capoté, ça a échoué complètement, ça a dénaturé cette aventure qui peut-être aurait pu réussir. Il y a d'autres raisons pour lesquelles elle a échoué, mais vous avez là une raison qui vous montre pourquoi le Talmud, les rabbins du Talmud n'aiment pas ce qui est arrivé des Asmonéens. Vous suivez ? Deuxième grand principe de la Torah que les Asmonéens ont hurlé, et le résultat était encore plus catastrophique. Une chose peu connue, cachée, il y a un tabou là-dessus. La Torah interdit de convertir au judaïsme des peuplades entières. Or, les Asmonéens ont intégré dans l'identité juive des peuplades entières, en particulier les Iduméens, les descendants d'Ésaü. De là est sorti le christianisme. Vous voyez quel a été le résultat. Vous savez en particulier qu'au moment de la fondation du christianisme, la dynastie de la Judée était tenue par une dynastie iduméenne. Vous avez entendu parler de Hérode. Et le christianisme est né d'une alliance objective entre Rome et les Iduméens et Édom. La conscience chrétienne est née de la relation, du lien, de l'alliance entre les Romains et les Iduméens. Et c'est pourquoi, pour la tradition juive, Rome, c'est Édom. Vous voyez comment historiquement ça apparaît à ce moment-là. Mais comme conséquence du fait que le pouvoir politique fondé par les Asmonéens était dénaturé dès l'origine. Et c'est pourquoi la caste au pouvoir, c'était les Sadducéens et pas les Pharisiens. Et par exemple, tous les grands prêtres, à partir de ce moment-là, sont des grands prêtres Sadducéens. Et la communauté des pharisiens, qui, elle, va perpétuer la tradition, était clandestine, était dans la résistance. Okay. Alors tout cela, ça vous sera éclairé lorsque vous apprendrez un peu plus les événements historiques de cette époque, mais vous voyez quel est le cadre. Alors, c'est une autre perspective pour comprendre pourquoi le Talmud n'intègre pas l'histoire des Maccabées. Oui. On pourrait dire, eh bien c'est parce que ça a échoué, alors on n'en veut plus. Eh bien pas du tout. Bien que ça ait échoué, ce que les Maccabées à l'origine, Mattathiaou et ses enfants, ont instauré, va être intégré dans la tradition. Okay? C'est pas la raison pour laquelle on ne nous raconte pas cette histoire. Et on va le voir dans la Gemara elle-même. Vous voyez, ça va jusque-là ?
Mais c'est quand même
très très long. Hein ? Ah non, absolument pas. Non. La raison, c'est les deux raisons qu'on a vues précédemment. Okay. C'est dès l'origine, le Beit Din a décidé, on ne met pas ça par écrit. Okay. Ensuite, on s'aperçoit qu'effectivement, par rapport à la tradition pharisienne, c'est un échec absolu, rejeté par la tradition pharisienne. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle ce n'est pas mis par écrit. Et donc, je vous ai expliqué cela pour comprendre, d'abord, ce qui s'est passé vraiment, qu'il y a eu vraiment un échec à la longue, d'accord ? Mais qu'on serait tenté de dire, eh bien, c'est pour ça que le Talmud n'aimant pas les Hachmonéens, la dynastie Hachmonéenne, a mis le blackout là-dessus. Non, la vraie raison, c'est ce qu'on a vu avant. Okay? Dès l'origine, au temps de Matatia, on a décidé, ça ne met pas par écrit. Okay? Bon.
Il
n'y
a personne qui a
pu
les avertir de ces erreurs.
Écoutez. Bien sûr, mais c'est-à-dire la vraie raison de l'échec de ce temps qui a duré 200 ans à peu près jusqu'à ce que les Romains soient arrivés et pour détruire la Judée, la vraie raison, c'est que le peuple juif n'a pas rejoint le Baïchim. Il n'y avait qu'un cinquième des Juifs en Judée. Et ne faites pas d'allusion à ce qui se passe, de rapport à ce qui se passe maintenant, parce que maintenant c'est le troisième retour, il n'y en a pas quatre. Okay. La catastrophe, ça risque plus d'être pour Israël, ça risque d'être pour la diaspora, c'est autre chose. Mais il y a quand même des cauchemars pour nos cousins de vocation placentaire. Vous vous rappelez de ça? Et là. Non, il y a encore un peu de place. Hein, si vous pouvez leur envoyer un billet. Bah. Non, c'est autre chose. Hein, je n'ai pas voulu parler de ça aujourd'hui, parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui. Simplement, je vous indique, sachez qu'il y a quatre véhicules de la souveraineté. Il y a la souveraineté du pouvoir politique, le roi, la souveraineté du pouvoir juridique, le juge, la souveraineté du pouvoir sacerdotal, le prêtre, et la souveraineté du pouvoir prophétique, le prophète. Okay? Bon, non, je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui. Alors, ne m'induisez pas en tentation. Et la... Dans tous les cas, en ce qui concerne ces deux pouvoirs en particulier, le roi et le prêtre, il y a interdiction absolue. Or, on voit que c'est ce qui est sorti des Hachmonéens. Donc, ils ont fondé une société judéenne dénaturée. Vous suivez? Et alors, elle a fini par disparaître. Mais enfin, la vraie raison de toutes ces raisons-là, c'est que si la majorité, au moins, du peuple juif s'était rassemblé en Judée, il y aurait eu les forces nécessaires pour que ce deuxième temple soit déjà le troisième. Vous suivez? C'était pour répondre à ta question, on ne les a pas avertis. Les rabbins s'occupaient des juifs de la Gola. Oui. Ah, c'était toi, oui. Les rabbins s'occupaient de fonder des synagogues à Sarcelles. Alors il manquait ici. Sarcelles, ça doit être un endroit prédestiné déjà depuis le temps de la conquête romaine. Là, ici, il y aurait une communauté juive. Okay. Bon. Bien. Alors, je crois qu'on peut aborder le texte de la Gemara pour lui-même. Vous allez retrouver tous ces principes, mais cette fois, dans la tradition orale, elle-même. Quelle est la page ? Hein? Coupe Kavrimel, 23. Oui, je sais que c'est pas la même impression. C'est 23 à l'œuf, vous allez prendre avec moi, donc, là où je vous ai signalé par deux crochets. Ne perdez pas de temps. Tout le monde a le texte sous les yeux? Bon. Alors, ceci est à l'intérieur d'une discussion dans la Gemara où, à propos... des lumières du Shabbat, on va parler aussi des lumières de Hanouka, et la question qui est posée, c'est qui doit dire la bracha sur les lumières de Hanouka? Est-ce que c'est celui qui allume la lumière ou est-ce que celui qui voit la lumière allumée? Bon, c'est un sujet pour lui-même. Okay? Et à ce propos, la Gemara pose la question. Maï Mevarer, celui qui bénit finalement, Maï Mevarer, que bénit-il? Qu'est-ce qu'il dit comme bracha? Non, suivez sur le texte. Okay? C'est pas écrit là. C'est écrit dans le texte. Maï Mevarer. Tout le monde a le texte sous les yeux? Maï Mevarer. Qu'est-ce qu'il bénit? Mevarer, il bénit Asher Kideshanu Bemizvotav. Qu'est-ce qu'il dit comme bénédiction? Qui nous a sanctifiés par ses commandements? Où tu es, toi? Vous voyez? Bon. Vetsivanu, et nous a ordonné להדליק נר של חנוכה, d'allumer la lumière de Hanouk. Question de la Gemara, Ve'echan tivanu, et où il nous a ordonné ça? On s'arrête là. Vous voyez? Question apparemment naïve, superficielle, mais qui va nous poser exactement tout notre problème. C'est-à-dire, premièrement, ça se rattache au problème général de toutes les mitzvot qui vont être instituées par la tradition après le temps de la Torah. Ken, et qu'on appelle les mitzvot midi rabbanan. Vous suivez? Alors regardez, c'est pas par hasard qu'on va poser la question. Où est la source des mitzvot instituées par la tradition orale uniquement à propos de Hanouka? Vous voyez le lien déjà? Parce qu'on aurait dû poser cette question la première fois qu'on a institué des mitzvot après le temps de Torah de Moshe. Par exemple, Purim. Pourquoi cette question n'est pas dans la Megillah de Purim? Qu'est-ce qu'on bénit? On bénit à Cheikh Edishanou, Venizot, Avisivanou, Al-Mikra Megillah, et qui nous a ordonné de lire la Megillah. C'est là-bas que déjà on aurait dû dire, mais où nous a ordonné ça? Non, on attend Hanouka pour poser la question de la source de l'autorité de la tradition orale. Vous voyez que c'est lié déjà tout de suite? C'est clair? Bon. Alors, je reprends un peu plus haut. Enfin, je reprends dès le début. Nous avons juste quelques lignes avant. Amar Rabbi Chiya Barashi, Amar Rav, Amadlik Ner Shel Chanuka Tzarich Levarech. Verabbi Yirmiya Amar, Aroe Ner Shel Chanuka Tzarich Levarech. Vous voyez quelle était la discussion juste avant. C'est-à-dire, on discute de savoir si c'est celui qui allume ou celui qui voit qui doit dire la bracha. Seulement, plus profondément, dans chacune de ces deux questions, il y a d'abord une question. Qu'est-ce que ça veut dire, celui qui allume ou celui qui voit doit bénir? Comme si on vient nous confirmer que on doit bénir. Entendez le mot tsarir, il faut. Okay. Celui qui allume la Hanouka, il faut qu'il bénisse. Celui qui voit la Hanouka, il faut qu'il bénisse. La discussion sera, est-ce que c'est celui qui voit, est-ce que c'est celui qui allume? Okay. Mais la forme même de l'institution a frappé les commentateurs. Et je vais le rattacher à ce qu'on vient de voir déjà aujourd'hui. Tu pourrais croire, parce que toute l'histoire de Hanouka, de Maccabi a fini par échouer, alors on continuera à allumer les lumières. Mais on va annuler ce qui s'est passé. On revient au temps précédent, on ne sait pas encore quoi on commémore. Hein, que c'est un coup pour rien, si j'ose dire, que ça se résorbe, puisque ça a échoué. Non, la Gemara vient de dire, ça arrive les barres. Bien que ça ait échoué, il faut venir. Est-ce que c'est clair maintenant? Tout le monde a compris ce que je voulais dire là. Ken? Ça veut dire que l'événement, quand il a eu lieu, était authentique. Alors on continue à bénir, à dire la bracha sur. Ken? Mais bien que, comme on vient d'apprendre, ça s'est résorbé dans l'échec. Je vous donne un exemple beaucoup plus large. Pessah, la sortie d'Égypte. Donc, Géoula. Et puis on a fondé Israël, au temps du Beit Rishon. Mais voilà qu'on redescend en exil. Question, on commémore ou on ne commémore plus Pessah? Non, on continue à commémorer. Parce que bien que ça se soit refermé, Ken, l'événement en lui-même est irréversible. Vous suivez? Voilà, vous avez un exemple là pour bien comprendre ce que vous voulez. Donc, je reprends la formule. Hamadlik nech shel chanouka tsarir lebarer. Ne crois pas que puisque ça a échoué, on ne va plus dire la bracha. On dira la bracha et en se référant au miracle des Maccabées, même si leurs descendants ont échoué. Vous suivez? Je vais quand même utiliser cela pour un autre sujet. Vous voyez que l'échec n'était pas fatal. Ils auraient pu réussir. Qu'est-ce qui a été le gorem, enfin le facteur? La vraie réponse, c'est ça. C'est que les Juifs ne sont pas revenus de l'exil de Babel en suffisamment grand nombre. Et nous verrons beaucoup de textes là-dessus. Okay? Et c'est pourquoi Ezra, qui a fondé le Beit Sheni, okay, et qui est en relation avec toutes les grandes communautés de la Gola, de l'époque, a jeté une malédiction sur toute la Gola, parce qu'il ne voulait pas venir renforcer la fondation du Beit Sheni. Et nous avons des textes de cette époque, des échanges de lettres entre Ezra et les communautés de Djerba, en particulier du Yémen et d'Allemagne. Il y avait déjà les grandes communautés ashkénazes qui existaient du temps du Beit Rishon. Et où il leur a dit, quand la Shoah commencera, ça commencera par vous. Surtout que marche pas haut. Le feu rouge. Et nous avons les textes. Et c'est le mot qu'il emploie. Bon, c'est plein de mystères, de questions, tous ces problèmes. Alors, les ancêtres, il y a 2000 ans, ont fauté, et puis les descendants de 3000 ans après vont payer. Ça, on étudiera un autre jour. Mais je vous dis simplement que je connais la question. Enfin, je comprends la question. C'est la vraie question. Okay. Revenons au problème. Ça veut dire, bien que, finalement, ça s'est résorbé dans l'échec, l'aventure des Maccabées, okay, un indice un peu humoristique, plein d'humour, pas humoristique, c'est qu'on fait les Maccabiades. On voit bien que ça échoue. Malgré tout, l'événement lui-même n'a pas échoué, l'événement lui-même est irréversible. Israël a été sauvé ce jour-là, le jour où Matatyahou a, comme on dit dans le livre d'histoire, levé l'étendard de la révolte. Vous voyez ? Ce jour-là, Israël a été sauvé. Ce jour-là, c'est Hanouka jusqu'à la fin des temps. Vous avez compris le... le fait de pouvoir reconstruire,